8 milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le couple et l'argent avec une question pas si simple. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes? Vous êtes nombreuses, les voisines, à avoir répondu. Évidemment, les hommes sont plus riches parce qu'ils gagnent plus. Imparable. Dans les trois quarts des couples, le revenu de l'homme est supérieur à celui de la femme. Mais il y a aussi des chiffres qui laissent perplexe. En France, entre 1998 et 2015, l'écart de patrimoine entre les femmes et les hommes a presque doublé. Comment est-ce possible alors que la société est en apparence beaucoup plus égalitaire et que les femmes sont plus diplômées que les hommes? Bref, mesdames, votre argent nous intéresse. Comment abordez-vous ces questions dans votre couple? Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Titiou Lecoq, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, votre nouveau livre a de quoi ébranler quelques certitudes féminines. Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes? C'est publié aux éditions L'Iconoclaste. Vous vous êtes fait connaître beaucoup par votre podcast « Rends l'argent ». Héloïse Boll, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseillère en gestion de patrimoine, fondatrice d'Oseille et compagnie qui s'adresse à des femmes qui veulent s'occuper de leur argent. C'est peut-être pas évident de les convaincre. Et vous allez bientôt publier « Aux thunes citoyennes, au travail et à la maison, prenez le pouvoir sur votre argent » aux éditions Alizio.
8 milliards de voisins et de voisines.
Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin.
Et tout de suite, écoutez le message de cette voisine, Altiane, à Brazzaville.
Chez nous, l'argent est une nécessité. Voilà. Nous avons deux budgets séparés, c'est-à-dire chacun gère son salaire à sa manière, mais ce qui ne nous empêche pas de faire aussi toutes les dépenses et les courses de la maison. Le loyer, par exemple, oui, quand je peux, je paye. Mais ce n'est pas destiné ou écrit dans un cahier de compte que ce mois-ci, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes Internet, c'est toi qui payes les chaînes, Canal Sat par exemple, Canal Plus. Voilà, on vit comme ça. Et c'est vrai aussi, quand on aime, on ne compte pas. Voilà.
Voilà, quand on aime, on ne compte pas. Tout ce qui est à moi est à toi. Ces phrases, bien sûr qu'elles ont du sens parce que la relation amoureuse, c'est en principe de se préoccuper de l'autre, de son bien-être, d'être unis pour le meilleur et pour le pire. Sauf que dans la réalité, quand on se met à compter, Titiou Lecoq et Héloïse Boll, ça ne se passe pas tout à fait comme ça.
Oui, alors l'amour ne compte pas, non, mais l'argent, en revanche, ça se compte. Donc on ne demande pas de compter l'amour, hein. On demande de faire les comptes financiers, parce qu'un loyer, en fait, bah oui, c'est de l'argent. CanalSat, c'est aussi de l'argent. Tout ça, ça vaut quelque chose. Et il faut savoir que quand on ne compte pas, et il y a quand même de l'argent en jeu, ça va forcément profiter au revenu le plus important dans le couple, le fait de ne pas compter. Et donc, justement, on pourrait se dire, dans l'idée d'amour, il y a l'idée de, eh ben, je veux aussi te mettre à l'abri, te mettre en sécurité, donc on va faire nos comptes pour faire en sorte que tu t'en sortes bien.
Pourtant, il y a quand même un nombre d'hommes qui disent, elle m'a mis sur la paille, je gagnais plus d'argent qu'elle, et elle en a littéralement énormément profité.
Il y en a beaucoup. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à une rencontre en librairie, et il y a une très jeune fille qui est venue me voir, qui avait lu le livre, et qui m'a dit, ben, en fait, mes parents ont divorcé quand j'étais petite, et je me suis toujours dit que, ouais, ma mère avait un peu mis mon père sur la paille, qu'il lui donnait beaucoup de pensions alimentaires, etc. Elle m'a dit, après avoir lu votre livre, en fait, je me suis rendu compte de la réalité de ce que ça impliquait et j'ai complètement changé ma vision du divorce, sur le divorce de mes parents. Et, parce que je pense que ces hommes qui disent ça, c'est aussi parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et dans l'idée de s'éduquer financièrement, il y a aussi l'idée de, vous êtes un couple marié, madame prend un temps partiel pour s'occuper des enfants, messieurs, sachez que ça va lui ouvrir des droits effectivement économiques plus tard en cas de séparation. Mmh. Donc ils ont aussi intérêt à se renseigner.
Et oui, vous avez surtout envie que les hommes lisent votre livre et pas seulement les femmes. Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes? Alors on avance dans votre livre, Titiou Lecoq, à travers un personnage fictif que vous avez appelé Gwendoline. En fait, c'est une fille qui ressemble à plein de femmes, qui se débrouille pas vraiment mal avec l'argent, hein, c'est pas un panier percé. Elle réfléchit, mais elle se débrouille pas super bien non plus. Et ce que vous souhaitez démontrer, c'est que les femmes sont au cœur d'un fonctionnement économique de la société.
C'est que oui, il y a vraiment plusieurs... il y a un ensemble de schémas, il y a quelque chose d'un peu systémique qui nous dépasse complètement à titre individuel, auquel on ne fait pas attention. Et l'idée de prendre Gwendoline, c'était de pouvoir me dire... C'est surtout la force de ça, c'était qu'à la fin, on la suit sur toutes les étapes de sa vie. Son argent de poche, partir de chez les parents, s'installer en couple, etc. Et qu'à la fin, au moment où elle arrive à la retraite, où on fait vraiment les comptes, elle puisse se retourner un peu vers les lecteurs et les lectrices et leur dire « Vous avez vu toutes les mauvaises décisions que j'ai prises. Ne faites pas la même chose. Mmh. Moi, je ne savais pas. Vous, on vient de vous l'expliquer. Donc, vraiment, faites attention.
Mmh. » Alors, tout commence avec l'argent de poche. Vous le disiez, Titiou Lecoq, mal négocié avec ses parents dès l'enfance quand on est une fille. Ça démarre mal. Ce que confirme une étude, hein, les filles ont moins d'argent de poche que les garçons et dans plein d'autres pays, pas seulement en France. Mais le sujet n'est jamais abordé à l'école, par exemple. On parle toujours des différences entre les enfants eux-mêmes. Il y a des enfants plus pauvres que d'autres qui ont moins d'argent de poche, notamment, ou qui sont moins gâtés que d'autres. Mais on n'en parle pas en tant que différence de genre.
Bah déjà, à l'école, on parle très peu d'argent parce que l'argent est perçu comme un sujet politique et que l'école n'est pas là pour faire de la politique. Donc, on apporte très peu ces sujets-là. Et après, ce qui est intéressant, c'est comment les parents, malgré eux, évidemment, c'est pas que les parents préfèrent leur garçon à leur fille. C'est pas du tout ça qui est en jeu. C'est qu'ils ont déjà un rapport genré à l'argent. Et que ce soit les parents ou les grands-parents vont plus facilement à un garçon lui donner un billet.
Qu'il épargne, pour qu'il l'économise, pour qu'il...
Ou qu'il achète ce qu'il veut, mais on lui donne de l'argent directement, alors que la petite fille, on va lui demander « qu'est-ce qui te ferait plaisir ?»« Allez, je te l'offre. Mmh. » Et déjà, on n'est pas dans le même rapport. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'on sait que dans le monde salarié, il y a beaucoup de différences de positionnement entre femmes et hommes face à l'argent. Mais là, ça commence quand même très, très petit.
Alors, vous racontez assez bien dans le livre, un petit garçon, il a son argent de poche, et donc il rêve de s'acheter un stylo qui coûte assez cher. Et entre lui et le stylo, il y a juste son argent. Il lui faut qu'il accumule suffisamment d'argent de poche pour pouvoir s'acheter le très beau stylo. Une fille, entre elle et l'objet convoité, pourquoi pas aussi un stylo, il va y avoir toujours une tierce personne qu'il va falloir séduire.
Voilà, qu'il va falloir, va falloir être mignonne, faire un sourire, se dire « Ah, s'il te plaît, j'en ai trop envie, est-ce que tu peux me l'acheter ?» etc. Et donc, on n'est pas dans un, elle n'est pas dans un rapport direct avec l'objet et à se dire « Ok, comment je peux, moi, me l'acheter ?» C'est, il faut que je fasse plaisir à quelqu'un pour que, voilà, obtenir ce que je veux. Et c'est clairement, c'est un rapport à l'argent, mais c'est un rapport au monde, j'ai envie de dire, qui n'est déjà pas le même.
On est déjà pas vraiment dans l'éducation financière, Héloïse Boll.
Sur ce terrain-là, en tout cas, on n'est pas dans une histoire d'autonomie en fait et d'indépendance et de jeunes personnes ou de personnes plus âgées qui disposent de son argent librement. Et en réalité, c'est le début, mais ça se poursuit par la suite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas moi, c'est des femmes que je rencontre quasiment quotidiennement à mon bureau qui se sentent pas quand même toujours très autorisées à disposer de leur argent comme elles l'entendent, notamment avec une situation dont Titu parle dans son livre et qu'on est très nombreuses à observer, qui est de se déculpabiliser de gagner de l'argent en investissant beaucoup au nom des enfants, ce qui est une erreur colossale parce que en cas de séparation notamment, enfin qui est quasiment le premier sujet dans lequel elles vont se dire finalement il aurait fallu que je mette cet argent là à mon nom parce que j'en ai besoin ponctuellement pour quitter ma maison, pour payer une caution, etc. Donc ce sont des femmes qu'on voit épargner beaucoup au nom de leurs enfants et en réalité elles ne peuvent pas récupérer cet argent au moment où elles en ont besoin, parce qu'elles ont besoin de l'autorisation du père de leurs enfants. Typiquement, c'est un besoin d'avoir, de cautionner un peu un certain nombre de choses et de se déculpabiliser, de faire des choses librement avec leur argent.
Mais on ne peut pas bâtir une relation de couple sur le « en cas de divorce », « en cas de séparation ».
Alors déjà, pourquoi pas ? Non mais en fait, c'est une vraie question. Et alors, en plus, sur ce genre de cas... les spécialistes m'ont toujours dit il y a les séparations et puis il y a aussi, et Héloïse me l'avait dit, il y a aussi les décès qui peuvent arriver. Et en fait, ça se prépare de se mettre à l'abri, de savoir un peu comment ça fonctionne, comment le budget du couple fonctionne, etc. Savoir combien il y a d'argent en jeu, c'est aussi se préparer à cette éventualité-là.
Alors, il y a cette idée chez les hommes que les femmes ne sont pas intéressées par l'argent ou alors uniquement de manière très vénale, hein, pour plumer les hommes au moment d'une séparation, par exemple. Mais comment expliquer historiquement que dans de très nombreuses cultures, les femmes soient mal à l'aise avec l'argent ? Est-ce qu'elles ont une culture différente de l'épargne bancaire? En même temps, quand vous racontez qu'au 19e siècle, quand il y a la création des caisses d'épargne en France, qui est une banque au départ pour les pauvres, hein, et puis finalement ça va être une banque pour tout le monde, très vite les femmes ont voulu absolument ouvrir un compte.
Oui, parce que parce qu'elles n'avaient pas le droit d'avoir des comptes bancaires, les femmes mariées à leur nom, et que y avait une espèce de faille dans la législation qui faisait que, en revanche, elles avaient le droit d'ouvrir des comptes d'épargne. Et donc elles se sont servies, mais dès que les femmes ont eu la possibilité de trouver un espace de liberté, elles l'ont quand même investi. Leur espace de liberté économique, c'était effectivement le livret d'épargne. Mais sur le rapport à l'amour, je pense que fondamentalement...
Non, à l'argent.
À l'argent, mais, non, mais à l'amour, à l'argent, en fait, c'est l'idée que la féminité, elle est là pour donner. Que la féminité, elle est construite sur le don de soi. Donc les femmes, c'est ce que l'historienne Michel Perrault m'avait expliqué. Dans beaucoup de cultures, les femmes, elles donnent la vie, elles donnent leur lait, elles donnent leur temps, elles sont là pour s'occuper. Et donc cette idée de don ne va pas avec l'idée de défendre mes intérêts personnels, faire des comptes, etc. Alors que la masculinité est beaucoup plus liée à l'idée de pouvoir et de puissance. Et dans nos régimes économiques, ça passe par l'argent.
Dans le couple, l'argent est vraiment, même dans les couples qui marchent bien, enfin qui vont bien, qui n'ont pas de problème, l'argent est au cœur d'une relation de pouvoir.
À partir du moment où on n'a pas les mêmes revenus, oui. Dès qu'il y a une inégalité de revenus, on peut être un couple où on s'entend hyper bien, les deux le savent très bien, et c'est compliqué à gérer. Et je sais que moi, je l'ai vécu très simplement. Toutes les situations où je savais que je gagnais moins, je prenais plus en charge les tâches ménagères. Et je savais très bien qu'il y avait un phénomène de compensation de ma part, de « je ne peux pas mettre plus, mais je peux faire plus dans la maison ». Et en même temps, ça se mord la queue, parce que plus on s'investit dans la maison, moins on s'investit professionnellement, moins on peut gagner d'argent à l'extérieur.
Alors, les auditrices, bien sûr, nous ont répondu à la question « pourquoi les hommes gagnent plus, sont plus riches que les femmes ?» parce qu'ils gagnent plus, en fait. Hein. Les salaires sont plus élevés. Héloïse Boll, les femmes gagnent moins que les hommes parce qu'elles choisissent des métiers moins bien payés. Elles occupent aussi des postes davantage à temps partiel, etc. En réalité, quand on regarde à poste égal, temps de travail égal, qualification égale, il y a un écart qui subsiste, mais qui n'est pas énorme, qui est autour de 5% dans le secteur privé. Et on retrouve cet écart dans énormément de pays développés. Alors ?
Alors, ben en fait, ce sont essentiellement les choix, en fait, les choix ou les non-choix des femmes qui dictent un peu leur absence de revenus ou leur revenu plus bas. Donc, ce sont effectivement les temps partiels, les congés parentaux parfois un peu prolongés. Ce sont les moments où on s'arrête carrément de travailler parce que on se retrouve avec 2, 3, 4 enfants, parfois un enfant qui a des besoins particuliers, je pense aux enfants handicapés, etc., etc. Les 3/4 du temps, ce sont les femmes qui font ces sacrifices financiers-là, en fait. Et ce sont des sacrifices qu'elles font souvent sans arrière-pensée, en réalité, et qui leur coûtent très cher. Et en fait, ce sont des périodes pendant lesquelles, à aucun moment, elles ne pensent à mettre des chiffres sur ce manque à gagner qu'elles enregistrent très très rapidement. Et donc, non seulement elles ne se posent pas la question, mais leur mari ou leur compagnon ne se posent pas la question non plus de ce que ça leur coûte. Et en général, dans leur tête, il y a peut-être l'idée qu'il y a une espèce de... Elles ont une espèce de créance, mais cette créance, en réalité, si elles comptent la récupérer plus tard, elles la récupéreront jamais. Donc, parfois, elles sont avec quelqu'un qui est de très bonne foi, qui a du mal quand elles annoncent un chiffre. Parfois, elles sont avec quelqu'un qui n'est plus là. Et là, il n'y a pas moyen de récupérer. Donc, il faut faire les comptes.
Est-ce que les femmes sont réellement conscientes de ces inégalités, notamment les inégalités de salaire? On sait qu'elles ont du mal à connaître le salaire de leurs homologues, de leurs collègues hommes. C'est pas facile d'aller demander à un collègue homme « Montre-moi ta fiche de paye, je voudrais avoir une certitude ».
Oui, alors c'est là où il y a un différentiel entre le discours un peu médiatique général. On sait qu'il y a des inégalités salaires entre les femmes et les hommes, on le sait. Et après, je pense que si on demande à chaque femme individuellement, elles ne se sentent pas forcément concernées, mais simplement, effectivement, parce qu'il y a un problème de transparence des salaires. Moi, dans le livre, c'est un de mes conseils genre, pour les hommes qui ont envie de participer à aller vers plus d'égalité. Un truc très simple au travail, allez dire à vos collègues femmes combien vous gagnez. Parce que c'est difficile de savoir est-ce qu'on est dans la norme ou pas. Il n'y a pas très longtemps, il y avait eu sur le réseau social, sur Twitter, un balance ton salaire, et qui était lancé par des hommes informaticiens qui disaient, bah voilà, je vais dire à combien j'ai d'expérience, combien d'années d'ancienneté, mes diplômes, et combien je suis payée, je vais le mettre publiquement pour que ça aide les femmes informaticiennes à évaluer si elles sont sous-payées ou pas. Mais il y a une vraie résistance à ça, parce qu'il y a une vraie gêne à dire combien on gagne précisément.
Gêne, et puis beaucoup de femmes aussi, dans votre livre, disent ou admettent que finalement, elles se satisfont de ce statu quo.
C'est un des sondages les plus intéressants, à mon sens. C'est pas tant l'écart de salaire, mais effectivement, on a étudié le degré de satisfaction. On se rend compte que les hommes se déclarent moins satisfaits de leur salaire que les femmes, alors qu'ils gagnent plus. Et c'était la même chose sur l'argent de poche, en fait. Les petits garçons ont davantage d'argent de poche aussi parce qu'ils demandent plus d'augmentation, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. Et en fait, c'est parce que j'avais trouvé la même chose sur les tâches ménagères, c'est que les femmes pratiquent des comparaisons intrinsèques. C'est-à-dire qu'elles vont comparer combien elles gagnent pas avec un homme, elles vont comparer avec ce que gagnait leur mère, elles vont comparer avec la situation des femmes dans d'autres pays où ça peut être plus difficile, dans d'autres classes sociales, etc. Et sauf que, évidemment, l'égalité, c'est pas entre les femmes, c'est entre les femmes et les hommes. Donc le point de comparaison n'est pas le bon.
Alors revenons au couple. Quand on aime, on ne compte pas, sauf que ne pas compter dans un couple, vous le dites beaucoup dans votre livre Titiou Lecoq, profite souvent à un seul des deux. 72% des couples déclarent mettre en commun tous leurs revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une erreur? Comment fonctionne en général l'argent dans les couples?
Alors, il y a des cas très particuliers entre les gens qui vont tout mettre en commun, mais qui est quand même quelque chose qui date des générations plus anciennes. Et les jeunes générations, on voit qu'elles se dirigent vers ce qu'on appelle une individualisation du patrimoine. C'est-à-dire, grosso modo, quand même, chacun conserve ce qui lui appartient. Ça se voit très bien, par exemple, mais alors même les couples qui mettent tout en commun, en fait, quand il y a un héritage, c'est très rare qu'un héritage personnel, familial qu'on touche, on le partage à 50% avec son conjoint ou sa conjointe. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui échappent à la comptabilité commune. Après, moi je ne suis pas du tout dans un rôle de dire il faudrait faire comme ci ou comme ça, mais juste de se dire, en fait, posez-vous la question de est-ce que votre couple est de droite ou de gauche, j'ai envie de dire. Comment vous redistribuez les richesses? Est-ce que vous êtes un couple où vous ne partagez que les dépenses? Et dans ce cas-là, il y a des dépenses qui font du patrimoine et d'autres dépenses qui valent rien, il faut y réfléchir. Est-ce que vous êtes un couple qui a envie de partager les richesses et les revenus? Mais c'est déjà des discussions à avoir et des questions à se poser.
Alors ça, ce sont des questions assez floues. Je prends le message d'une auditrice, Thérèse, qui est à Lubumbashi en RDC. Elle nous dit « L'argent dans un couple ne doit pas faire l'objet d'un tabou. Moi, dans mon couple, on parle du sujet sans filtre. On a un budget commun, mais chacun contribue de manière équilibrée aux factures du quotidien. Tout est rédigé dans un cahier de compte. Ça nous permet de contrôler nos dépenses. » Ce mot « équilibré », c'est comme le mot « égalité », le mot « équité ». C'est quand même pas si transparent et pas si évident. Qu'est-ce que ce serait une relation saine, équilibrée et juste? Est-ce que c'est une caisse commune, que ce soit un compte commun en banque ou une boîte avec l'argent qui est mis en cash en fonction des pays où on est très bancarisé, pas beaucoup bancarisé, peu importe, mais et chacun garde au départ ses revenus de son salaire et met dans une caisse commune pour payer l'électricité, l'eau, etc. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ce mot équilibré?
Alors, effectivement, on peut se dire, est-ce qu'on met autant la même somme les deux? Mais alors, si les deux n'ont pas les mêmes revenus, le même salaire, on se dit, c'est pas juste, donc il vaudrait mettre en fonction du salaire. On pourrait se dire, chacun met 10% de son salaire. Mais en fait, on pourrait se dire, celui, en général, celle qui a le plus petit salaire, c'est sans doute parce qu'à côté, elle fait des choses pour la maison. Et ces choses qu'elle fait, qu'elle prend en charge, ça vaut, ça a une valeur économique. Qu'on pourrait aussi se dire, bah, en fait, je ne veux pas mettre 10% de mon salaire parce que moi, je fais tel apport ménager, donc je ne mets que 5% finalement.
Ce que vous observez, Loïse Boll, c'est que beaucoup de femmes contribuent à la marche de la maison en achetant, en payant notamment la nourriture.
Oui, ça, c'est une répartition genrée des dépenses, mais Titiou en parle aussi, c'est vraiment quelque chose de très, très préoccupant. En fait, il faut faire vraiment très, très attention dans la répartition des dépenses. Et ça, c'est vraiment très, très important d'alerter le maximum de
Alors,
monde
prenons
sur
des
le
exemples.
Sujet. C'est que vous ne pouvez pas, vous, payer les courses, les ceintures de judo, les boîtes de petits pois et tout le quotidien pendant que votre mari ou votre compagnon rembourse la maison et la voiture, parce qu'à la fin, vous avez rien. Et lui, il a du patrimoine. Donc, on dit vraiment de faire très, très attention, de bien faire la différence entre ce qui relève des flux, c'est-à-dire toutes ces choses qui filent au fil du temps, et de ce qui relève des stocks. C'est ce qui, à terme, va constituer le patrimoine. Donc, si tout votre argent part dans des choses qui se périment très vite, c'est ce que Titiou appelle la théorie du pot de yaourt, vous vous retrouvez complètement sans rien. Si, en revanche, vous avez aussi participé au paiement de la maison, de la voiture, des choses qui constituent un socle patrimonial, eh ben, finalement, il y a une forme d'équilibre et d'équité, parce que à la fin... vous avez contribué aux choses qui se périment, mais vous avez aussi contribué aux choses qui ne se périment pas, et donc vous avez des droits sur le patrimoine.
Sauf que y a certaines choses qui peuvent paraître tout de même assez contre-intuitives. Vous vous dites carrément, Titiou Lecoq, que moins on gagne d'argent, plus on est le plus nécessiteux dans le couple, plus il faut participer aux dépenses les plus coûteuses dans le couple.
Oui, alors et effectivement, les gens font exactement l'inverse. C'est, l'idée, c'est si vous avez le plus petit revenu, vous avez besoin de vous créer une sécurité économique parce que voilà, vous êtes dans une situation un peu de précarité difficile. Donc, vous avez intérêt à moins de participer aux dépenses de courses alimentaires, etc., comme disait Héloïse, et à dire, eh ben, moi, je préfère baisser ma participation aux courses d'épicerie et mettre plus pour l'achat de la voiture et avoir un peu plus de la voiture parce que... Mais ce ne sera jamais à 50-50, évidemment. Ou l'achat du logement, parce que voilà, ça me fera quelque chose. Je fais un patrimoine, je me fais une sécurité.
Toutes ces inégalités, bon, vous les rattachez évidemment beaucoup à la culture d'une société. Est-ce que on observe aussi dans les couples où les deux personnes sont de même sexe des disparités, un naturel où l'un tente d'avoir le dessus et comme par hasard c'est celui qui a le plus gros salaire ou celle qui a le plus gros salaire. Est-ce que ce sont des mécanismes qu'on observe aussi dans des couples homosexuels?
Alors tout à fait. Du moment où il y a une... Alors très souvent ça arrive avec l'arrivée des enfants quand même. Mais du moment où il y a une disparité de revenus, il y a très souvent les couples vont avoir un des deux qui va privilégier sa carrière et l'autre qui va se spécialiser plutôt sur la vie de couple, la vie de famille, etc.
Parce qu'il a plus de temps aussi. S'il gagne moins, c'est qu'il a plus de temps aussi. Celui qui gagne moins, en général.
C'est aussi parce qu'il gagne moins qu'il va avoir plus de temps. Ça fonctionne dans les deux sens. Et donc, dans des couples de femmes ou des couples d'hommes, on peut retrouver la même chose, une forme de spécialisation qui se met en marche.
Ça s'appelle aussi la solidarité, quand même, d'une certaine manière, non ?
Non, en quoi c'est solidaire ?
Je sais pas, j'ai un peu plus de temps, je vais faire des choses que tu n'as pas le temps de faire. Comme ça, toi, tu as plus le temps de te détendre quand tu rentres, non ?
Et pour l'autre, où est la solidarité ? Non, je vois pas du tout ça sous l'angle de la solidarité. C'est une question de spécialisation en se disant c'est plus efficace comme ça. Au moment du Covid, on l'a vu de manière... C'était flagrant. Je veux dire, tous les couples ont vu, toutes les familles ont vu qui avait accès à l'ordinateur pour les réunions Zoom et qui faisait l'école à la maison. Voilà, il n'y avait pas trop de doute sur qui était spécialisé sur quoi.
Donc, et plus qu'une histoire de sexe, c'est une histoire de revenus, là.
C'est une histoire, oui, d'écart de revenus et qui fait qu'il faut juste faire attention à ça et mettre en place une organisation qui tend à réduire un peu ces inégalités.
On va en parler, bien sûr. Vous restez avec nous, Titiou Lecoq, Héloïse Boll. On avance pas à pas pour déconstruire des idées reçues. Quand l'enfant paraît dans la vie d'un couple, eh bien, il appauvrit les femmes et il enrichit les hommes. On en discute juste après la chanson de Rosalia, Biscochito.
Yo no soy ni viaje tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena solo me derrito, el mal de ojo que me mando me lo quito. Yo no soy ni viaje tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene Adelito. Que me pongan nena solo me derrito, el mal de ojo que me mando me lo quito. Tú eres copin pedazo, te pimpeando a ti. Yo elegí mi lado, te digan que nací. Tú eres copin pedazo, te pimpeando a ti. Yo elegí mi lado, te digan que nací. Te digan que nací. Te digan que nací.
Desde el día que nací.
Te digan que nací.
Desde el día que nací.
Te digan que nací. No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Mi piquete duro te marea. Hasta tu mamá le tararea. Que manda que me tire la mala. soy jaraga, me tira la buena. Habla bullshit, todo lo que dice facea. Kimi mi capa la ola de Corea. Habla bullshit, todo lo que dice facea. Kimi mi capa la ola de Corea. La ola de Corea. La ola de Corea. Yo no soy inhibia, soy tu bizcochito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan nano, soy como derrito. El mal de ojo que me mando, me lo quito.
Milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en compagnie de Titiou Lecoq qui publie Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes aux éditions L'Iconoclaste, et Héloïse Boll, conseillère en gestion de patrimoine, fondatrice d'Oseille et compagnie. Vous allez bientôt publier Autune citoyenne, au travail et à la maison. Prenez le pouvoir sur votre argent aux éditions Alizio. Je crois que les voisines, vous avez compris, on s'intéresse à votre argent. On essaye de déconstruire aussi certains préjugés, de comprendre aussi comment la société ne fonctionne pas forcément en faveur des femmes pour ce qui est de bien comprendre à quoi sert l'argent, comment l'utiliser, comment protéger, sécuriser aussi son avenir. Alors il y a des chiffres qui sont effectivement qui nous laissent perplexes. L'arrivée d'un enfant appauvrit les femmes et enrichit les hommes. Comment est-ce possible alors qu'en France et dans de nombreux pays du monde, les femmes sont, on ne l'a pas encore dit, mais plus diplômées que les hommes?
Oui, elles sont plus diplômées. Alors ça, sur les diplômes, il y a quelque chose de... il se trouve que les qualités demandées pendant la scolarité ne sont pas les qualités mises en avant dans le monde du travail. Et donc les filles qui rentrent dans le cadre scolaire, etc., qui sont sages, travailleuses, nanana, en fait, dans le monde de l'entreprise, c'est pas ça qui est mis en avant. Donc il y a une prime aux garçons là-dessus. Mais sur l'arrivée des enfants, ce qui est fascinant, c'est de voir que si on prend les revenus, par exemple, une femme célibataire et une femme mariée, la femme célibataire a des revenus supérieurs. On peut se dire c'est normal. Elle s'occupe pas de elle a pas d'enfants, elle est concentrée sur sa carrière. Un homme marié et un homme célibataire. L'homme marié a des revenus supérieurs à l'homme célibataire. Donc, en fait, il y a vraiment, dans notre système, une prime, et on le voit, on le sait, comme une femme vient d'avoir un enfant dans sa carrière professionnelle, elle a une baisse de salaire, un homme, il a une promotion. Parce que ça y est, c'est un père de famille, il est bien vu, on va lui donner plus de responsabilités, etc. Et donc lui, l'arrivée des enfants est un booster dans sa carrière.
Sauf que quand même, les entreprises aujourd'hui, les directions des ressources humaines ont des obligations d'accorder des augmentations de salaire dans une équipe, par exemple, y compris à celle qui est partie et qui revient de congé maternité.
Et bien ça, par exemple, c'était une obligation que la plupart des entreprises ne connaissaient pas. C'est-à-dire, la loi en France était passée, c'était une obligation, et on s'est rendu compte quand on a fait un truc qui s'appelle un peu compliqué, mais qui s'appelle l'index d'égalité au sein des entreprises, on s'est rendu compte que les entreprises ne respectaient pas la loi parce qu'en fait, les ressources humaines ne savaient pas que cette loi était passée.
L'écart de revenus au sein du couple passe de 7% à 23% après la naissance du premier bébé. Comment est fait ce calcul ?
Alors, je ne sais pas exactement comment il a été calculé. En tout cas, il se retrouve, il avait déjà été calculé dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010. On le retrouve toujours. Ça ne bouge pas. Et dans les pistes pour y réfléchir, il y a une étude que j'avais trouvée qui est assez intéressante et qui montre que, par exemple, les femmes, sur leur choix professionnel, on a découvert qu'elles choisissaient un travail en fonction du temps de distance entre leur maison et le lieu de travail. En gros, elles ne veulent pas passer trop de temps dans les transports parce qu'elles se disent « il faut que je sois disponible pour l'école, pour les enfants, etc. » Donc, elles peuvent potentiellement dire non à un boulot bien payé, etc. en se disant « je vais prendre un boulot moins bien payé, mais plus près de la maison. » Là où les hommes, majoritairement, vont se dire « super opportunité, c'est pas grave si c'est un peu plus loin. »
C'est vrai que c'est incroyable de voir ces statistiques où systématiquement, beaucoup plus d'hommes ont un travail plus loin. Alors, vu du côté des hommes, c'est « qu'est-ce qu'on trime ? Nous, c'est toujours nous qui avons les jobs les plus loin, c'est beaucoup plus dur, on a un temps de trajet plus long. » Et pour nos épouses, c'est quand même beaucoup moins dur la vie quotidienne.
Oui, mais alors de fait, en fait, c'est des choix, c'est des calculs personnels. C'est-à-dire qu'on se dit « moi, je vais prendre ce boulot et avoir plus d'heures de trajet, mais parce que je me dis que je suis mieux payée et que j'ai plus d'opportunités professionnelles là-dedans. »
Héloïse Boll.
Et effectivement, ce sont des choix. Et puis après, là, je fais un constat. J'ai pas de statistiques. C'est le fait de dire je travaille loin, j'ai plus de travail et j'ai le plus gros salaire, c'est aussi une très bonne excuse pour rentrer plus tard le soir, à un moment où il y a moins de monde dans les transports, etc. Pour profiter de cette heure entre 7 et 8 où les hommes font avancer leur carrière, parce que entre 7 et 8 dans les bureaux, les hommes travaillent pas du tout, ils réseautent, ils créent ils nouent des alliances, etc. Ils font de la politique, ils font avancer leur carrière. Pendant ce temps-là, leurs femmes sont à la maison en train de gérer les bains, le dîner, etc. Moi, j'ai quand même entendu des hommes, et là, c'est vraiment pas statistique, mais c'est une expérience et c'est un retour d'expérience. J'ai quand même entendu pas mal d'hommes qui disent, moi, je suis désolée, entre 7 et 8, je ne suis pas là parce que c'est juste l'heure qui est ingérable.
Donc, à la maison.
À la maison. Donc, c'est des choix.
Les temps partiels, 80% des personnes qui travaillent à temps partiel sont des femmes. On pourrait rétorquer, mais elles l'ont bien choisi tout de même.
Eh ben non, la majorité des temps partiels ne sont pas choisis par les femmes. Ils sont imposés et en réalité, c'est parce que les temps partiels dépendent beaucoup des secteurs d'activité et les femmes sont dans des secteurs d'activité très précarisés d'un point de vue économique et on fonctionne avec du temps partiel et des suites de petits contrats. Et donc, ça va être agent d'entretien, caissière, auxiliaire de vie, etc. C'est beaucoup, beaucoup des temps partiels. Et donc, c'est la nature de l'emploi qui fait qu'elles sont à temps partiel et pas du tout un choix.
Un message de Afi qui est à Kinshasa en RDC. Avoir un budget commun ou pas, ça dépend d'un couple à un autre. N'oubliez pas qu'il y a aussi l'aspect des régimes matrimoniaux. Devant l'officier de l'état civil, les biens de l'homme deviennent automatiquement les biens de sa femme au moment où le choix a été fait sur le régime de communauté des biens. Bon, c'est vrai que les régimes matrimoniaux aussi, ça change d'un pays à l'autre. On découvre dans votre livre que, paradoxalement, l'époque où l'homme et la femme se mariaient et mettaient tout en commun, puisqu'il n'y avait qu'un seul régime autrefois, c'est-à-dire le régime de la communauté des biens, bon, la femme pouvait aussi se récupérer les dettes du mari, mais bon, finalement, paradoxalement, ça pouvait davantage profiter aux femmes qu'aujourd'hui, où, vous l'avez dit au début de l'émission, aujourd'hui, il y a une notion du mariage, enfin, du couple, qui est très individualisée avec l'argent.
Qui est très individualisée, et en même temps, ce sont les femmes qui continuent de prendre en charge les tâches ménagères et familiales. Donc, Et beaucoup de dépenses des enfants. Donc, il y a une espèce de piège qui s'est mis en place, et moi-même, je suis tombée dedans, qui a été de se dire, je veux être indépendante, donc j'ai pas envie de me marier, j'ai envie de garder, voilà, on fait chacun nos comptes bancaires et on reste séparés là-dessus. C'est super comme indépendance, mais si en même temps on prend en charge tout le travail invisible de la maison, ça ne fonctionne pas. Et c'est venu aussi, je pense, là vraiment d'une inculture économique, c'est-à-dire de ne pas se rendre compte que en fait, avec les régimes matrimoniaux, avec par exemple le mariage, il y a des avantages. Moi, j'étais sur un truc très politique. Je ne veux pas me marier. Oui, d'accord. Et alors ? Donc, les pensions de réversion à la retraite, les protections en cas de veuvage, enfin, et tout ça, je n'y pensais pas. J'étais sur quelque chose de très abstrait. Donc, c'est là où, en fait, il faut se renseigner, il faut se faire une culture économique pour se rendre compte de, est-ce que pour nous, le mieux, c'est tel régime ou tel autre, etc.
Ouais, on revient toujours à l'éducation financière qui fait tellement défaut aux femmes. Quand on parle des impôts, Héloïse Boll, est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec vos clientes qui viennent vous voir pour gérer leur revenu, leur patrimoine ?
Systématiquement. Et ce qui est assez rigolo, donc il y a depuis l'arrivée du prélèvement à la source, il y a la possibilité, quand on est un couple qui a une déclaration commune, donc soit qu'on est pacsé ou qu'on est marié, il y a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un taux individualisé, c'est-à-dire d'avoir un taux d'imposition qui serait à peu près conforme à vos revenus et pas de trop participer au paiement de l'impôt et de trop être prélevé parce que vous vivez avec une personne qui gagne beaucoup plus d'argent que vous. Mais quand on aborde ce sujet-là, je reçois aussi beaucoup de femmes qui disent « Je pense que j'aimerais prendre le taux individualisé, c'est-à-dire être moins prélevée sur mon salaire parce que, en réalité, je ne devrais pas payer autant d'impôts quand je regarde mon revenu et ils devraient en payer une partie beaucoup plus importante. » mais c'est très difficile à faire accepter. Et il va falloir qu'on ait une discussion ce soir ou cette semaine pour que je lui explique l'avantage pour moi de le faire et l'inconvénient pour lui. Et parfois, quand on a été dans une organisation de couple où les impôts ont été partagés quasiment 50-50, où le paiement du quotidien a été partagé 50-50 et qu'on arrive au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans de vie commune et qu'on se rend compte que, en fait, c'est une organisation qui est parfaitement inéquitable, eh bien, celui qui a profité de cette organisation allègrement pendant plusieurs années, c'est très difficile de le faire revenir en arrière et encore plus d'insinuer que quand même il en a bien profité et souvent ça génère des discussions et des débats qui sont pas très agréables.
Et c'est surtout que celui qui gagne plus dans ces cas-là utilise un argument très rationnel qui est de dire si on est un couple et si on additionne nos impôts respectifs, on va payer plus au global. Même
ce
si toi,
faux.
Ça sera plus favorable.
Ce qui est faux. Ce qui est faux.
Mais c'est souvent l'argument qui est avancé.
Non, mais c'est un mauvais argument parce que c'est faux. C'est simplement que la répartition de l'impôt sera, du paiement de l'impôt sera différente au sein du couple. Mais l'addition, elle, sera toujours la même. L'administration fiscale n'est pas dans une logique de se priver de ressources, hein, je vous rassure. Donc, non, il n'y aura pas plus d'impôt si vous êtes en taux individualisé.
Mais dans le fond, il y a quand même beaucoup d'hommes qui disent « Mais dans le fond, il est normal que celui qui gagne plus épargne davantage le fruit de son travail. »
Oui, mais pourquoi est-ce qu'il gagne plus ? Il gagne plus parce qu'il est déchargé de... Il a eu un bonus professionnel parce qu'il a eu des enfants et en même temps, il n'a pas à s'en occuper. Il n'a pas à être là, effectivement, entre 19h et 20h. Il n'a pas la charge mentale de tout ça. Donc, en fait, j'aimerais parfois qu'on arrive juste à changer la vision des choses.
Donc, tout ça doit se payer, d'une certaine manière.
C'est l'idée de se dire, en fait, Gwendoline, elle a vraiment de la chance d'être à temps partiel et tout parce que Richard gagne assez. Mais de se dire, non, en fait... Richard, il a vraiment de la chance que Gwendoline ait accepté de moins gagner d'argent pour tout prendre en charge et que lui fasse sa carrière.
8 milliards de voisins.
C'est vraiment quelque chose qui crée la proximité. C'est être ouvert à la rencontre de l'autre sans aucun a priori.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Même si géographiquement on est effectivement dispersés,
on existe ensemble.
Alors, je voudrais que on revienne un peu sur la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'encontre des femmes. C'était il y a quelques jours. Il y a une vidéo choc qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qui a été commandée par la Fédération nationale de solidarité des femmes et qui lance une nouvelle campagne de communication qui est centrée sur les violences économiques, hein, pas les violences physiques, les violences économiques au sein du couple. Si vous ne savez pas vraiment ce que sont les violences économiques, écoutez la bande-son.
Pour leur couple, ils ont choisi iMoney.
Ah, c'est génial. Dès que ma femme doit faire un achat, je suis alerté.
C'est vraiment pratique. Avec ça, c'est moi qui décide des achats de ma nana.
Pour garder un œil sur l'argent de ma femme, c'est top.
Je vois sa demande de dépense immédiatement et je peux l'accepter directement. Ou pas.
Là, c'est pour une pizza pour les gamins.
Je peux transférer toutes ses allocations direct sur mon compte.
Ah bah tiens, elle veut payer son abonnement de bus.
Ah mais y a pas moyen, je refuse. Non mais sérieux, elle peut très bien faire à manger, non ?
Il va falloir qu'elle soit très gentille avec moi ce soir si elle veut que j'autorise son paiement.
De toute façon, on s'aime, donc ce qui est à elle est à moi.
iMoney n'existe pas, mais les violences économiques, si. Contrôle des dépenses, privation de ressources, chantage économique. Les violences économiques sont des violences conjugales. Depuis 30 ans, le 3919 vous écoute, vous informe, vous oriente.
Héloïse Boll, comment se protéger des violences économiques qui arrivent dans tous les couples de tous milieux, en tout cas peuvent survenir dans tous les milieux ?
La première chose, c'est de les identifier. Et c'est pas toujours évident parce que souvent, en face de vous, vous avez une personne qui a des arguments, comme dans les violences psychologiques, finalement.
Tu es tellement dépensière.
Tu es tellement dépensière ou je vais m'occuper de l'argent parce que toi, tu sais pas gérer. Non, mais on va pas faire 50-50. Alors, il y a un très, très bon argument que j'ai entendu. Non, 50-50, moi, je suis pas d'accord. J'ai vraiment beaucoup galéré dans ma jeunesse. Super excuse, mais en fait, c'est pas une raison pour dépouiller sa femme. Il y a des arguments et des réponses à tout, en fait, dans ces cas-là. Et donc, il faut faire très attention et les identifier. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des consultations avec des femmes qui viennent me voir en disant « Mon mec me dit tout le temps, je me fais arnaquer. Est-ce qu'il se fait vraiment arnaquer ?» Bon, bah, on fait les comptes. en général, les mecs qui se font arnaquer, c'est pas si fréquent. Et donc, commencer par renverser les rôles et expliquer que c'est une femme qui, probablement, est déjà victime de violences économiques depuis longtemps, qui est responsable de l'infortune de son mari, c'est la première des choses. Donc, la première des choses pour lutter contre une violence économique, c'est de la détecter et de l'identifier. Et c'est pas si simple.
Et pour ça, il faut faire un audit financier de son couple. Très concrètement, quels seraient les conseils que vous donneriez aux femmes, que vous donnez aux femmes qui viennent vous consulter pour protéger son argent dans le couple? Quelles sont les erreurs à éviter? Ça commence par quoi?
Alors, la première des choses, et ça, je le dis à celles qui ne viennent pas me voir, parce que celles qui viennent me voir, en général, ont déjà compris qu'il fallait qu'elles s'occupent du sujet. La première des choses, c'est de s'intéresser à son argent. C'est très important. C'est de s'intéresser au fonctionnement, de comprendre comment ça marche et de savoir ce qu'on a dans les caisses. Qu'est-ce qu'on a comme dette, combien on a, etc. Éventuellement, si on peut, j'encourage vraiment les femmes à faire leur déclaration d'impôt et à ne pas déléguer cette tâche-là, parce que ça donne une réalité très très concrète, une idée très concrète de ce qu'il y a à peu près, de quels sont les flux, justement. Typiquement, un bonus sur lequel votre mari ou votre compagnon n'a pas communiqué à mort, bah, sur la déclaration d'impôt, vous le voyez. Des revenus locatifs, vous les voyez. Alors, vous pouvez entendre un compagnon qui dit « Ah oui, mais tu comprends, cet appartement, il me coûte très cher, hein, j'ai payé beaucoup d'impôts dessus, etc. » Oui, enfin, quand on paye des impôts, c'est qu'on encaisse des revenus. Donc, ce sont des revenus supplémentaires. Il faut comprendre ce qui se passe dans les finances de son couple. Et donc, il faut s'intéresser à son argent. Ensuite, il faut essayer de le placer, de l'investir, d'en mettre de côté, de se protéger, de comprendre le mécanisme en fait de son régime matrimonial et de savoir comment on se met à l'abri. Moi, j'appelle ça faire un crash test. En fait, vous parliez au début de l'émission de penser directement au divorce, mais en fait, quand vous achetez une voiture, la voiture, elle a été testée plein de fois. Et ben, quand vous vous installez pour quelques années ou pour toute la vie parfois avec quelqu'un, c'est important de savoir comment ça se passe en cas de crash. Et les crashs, c'est la séparation ou la mort. Bah, s'il y en a, si c'est toujours le même qui est protégé, ça ne va pas, en fait.
Un crash test dans son couple. Mais comment repenser une répartition, une relation équitable dans le couple, notamment avec les comptes bancaires, par exemple?
Alors, je conseille souvent d'avoir deux comptes joints. Un pour les dépenses d'immobilier, c'est-à-dire le remboursement du crédit, parce que ça doit être un compte sur lequel il y a des traces, en fait, des paiements de chacun, et un compte sur lequel on peut prouver facilement que l'un et l'autre ont contribué au remboursement de la maison. Il n'y a pas de débat. Et le deuxième compte, c'est un compte pour les dépenses communes, ce qui évite justement les discussions. Ah oui, mais moi j'ai payé 6 mois-ci, j'ai payé 6 le mois dernier. En fait, ce compte-là, il doit être alimenté au prorata un petit peu des revenus. Et ce que disait Titiou, c'est que la priorité, c'est pour celui qui gagne le moins, c'est d'alimenter d'abord le compte qui va vers l'épargne et vers les stocks, puis le compte qui va vers le quotidien. Ça, c'est déjà la base. Et puis, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ne pas participer de façon 50-50 quand on n'a pas du tout les mêmes revenus. Et puis, poser les chiffres à chaque fois, régulièrement, quand les situations changent, refaire les budgets.
Comme dans une entreprise, finalement.
Exactement.
Le couple est une entreprise comme une autre.
Sur le plan financier, ça devrait à peu près fonctionner comme une entreprise, oui. On n'est pas obligé d'y passer toute la vie. Hein. Ça peut être une demi-journée par an et ce n'est pas la peine d'y passer son temps entier.
Voilà. Et surtout, les solutions ne sont pas fixes. Elles doivent évoluer au gré des changements et des situations professionnelles de chacun. Titiou Lecoq, dernière question du point de vue des entreprises, du point de vue des pouvoirs publics. Quelles seraient les urgences?
Oh là, il y en a tellement. Au point de vue des entreprises, c'est la transparence des salaires. C'est qu'effectivement, les salaires soient publiés et qu'on puisse se rendre compte des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est une première piste. Ça n'a toujours pas été fait. C'est en discussion. Et après, il y a plein de choses. Il y a le problème des pensions alimentaires qui ne sont pas payées, mal payées, pas entièrement payées. Ça, il faudrait effectivement aussi que ça change et que ce soit en fait le service des impôts qui s'en occupe. C'est le cas au Canada. Et ça
fonctionne... Avec des prélèvements automatiques.
Oui, ça fonctionne très bien au Canada. Et donc, ça sera à mettre en place dans d'autres pays, par exemple.
Merci en tout cas à toutes les deux. Titiou Lecoq, Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes aux éditions L'Iconoclaste. Et merci à vous Héloïse Boll, conseillère en gestion de patrimoine, fondatrice de Osaïe et compagnie. Et vous allez bientôt sortir aux thunes citoyennes, au travail et à la maison. Prenez le pouvoir sur votre argent. Je crois même qu'on peut le précommander avant la sortie en librairie.
Absolument.
Merci à toutes les deux. Lundi, 8 milliards de voisins, encore un sujet sur l'argent, beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui fait la valeur des footballeurs, ces salariés les mieux payés du monde? Dans quelques instants, ce sera le journal. On se quitte avec un rap, une reprise de Ray Charles, Kanye West et Jamie Foxx.
She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town, that digs on me.
Now, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I could tell you rock, I could tell by your charm. For us girls, you got a flock, I could tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psyche told me she have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to showbiz. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a Benz. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. She got one of your kids, got you for 18 years. I know somebody paying child support for one of his kids. His baby mama car crib is bigger than his. You will see him on TV any given Sunday. Win a Super Bowl and drive off in a Hyundai. She was supposed to buy your shorty Tyco with your money. She went to the doctor, got lipo with your money. She walk around looking like Michael with your money. Should have got that insured Geico for your money. Money. If you ain't no punk, holla, we want prenup. We want prenup, yeah. It's something that you need to have. Cause when she leave your ass, she gon' leave with half. 18 years, 18 years. And on her 18th birthday, found out it wasn't his. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Now I ain't saying you a gold digger, you got knees. You don't want a dude to smoke, but he can't buy weed. You go out to eat, he can't pay, y'all can't leave. His dishes in the back, you gotta roll up your sleeves. But while y'all washing, watch him. He gon' make it to a Benz out of that Datsun. He got that ambition, baby. Look at his eyes. This week he mopping floors, next week is the fries. So stick by his side. I know his dudes ballin', and yeah, that's nice. And they gon' keep calling and trying, but you stay right, girl. And when he get on, he leave your ass for a white girl. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. Let me hear that back.
8 milliards de voisins, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi avec toute l'équipe. Damien Roucou, Zeynaba Diallo, Divine Berthoud, Romain Dubrac. Nos émissions sont bien sûr à réécouter en podcast quand ça vous arrange.
De voisins, c'est fini.